maintenant les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les ateliers radiophoniques de Canal B. Dans le cadre du festival Aux Parleuses pour oser l'ouvrir, qui se déroule chaque année en septembre à Rennes, les élèves de 4e du collège Sainte-Joséphine Bakita ont réfléchi à la prise de parole et au pouvoir de la voix. La classe a été accueillie tout un après-midi d'octobre à l'EduLab Pasteur pour réaliser leur émission. Merci à Myriam Elaoudi, professeure de français, Suzanne Joly de Aux Parleuses et Yvan Janin de l'EduLab Pasteur.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les élèves de 4e du collège Sainte-Joséphine Bakita de Rennes.
Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la parole et de la voix, autour de différents sujets.
Dans un premier temps, nous allons interviewer 4 personnes dont la voix a un outil de travail.
Un peu comme nous aujourd'hui en fait, nos voix là, c'est notre instrument de travail.
Mais oui, tout à fait, mais revenons à notre sommaire. Donc, il y aurait aussi dans cette émission un débat ayant pour thème la prise de parole en classe, et notamment celle des filles.
Il y aura aussi de la musique tout au long de notre émission.
Tout d'abord, nous allons écouter l'interview de Lucie Lehapre, journaliste et productrice de l'émission d'info locale, La Reine tous les jours sur Canal B.
Elle a été interviewée par nos camarades Andrea et Jied.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je me présente. Je m'appelle Lucie Lehapre, j'ai 31 ans, je suis journaliste à la radio Canal B à Rennes, qui est une radio associative. Et dans cette radio, j'anime une émission qui s'appelle La Reine. C'est une émission d'information locale du lundi au vendredi.
Avez-vous toujours pris la parole aisément ?
Non. J'ai eu votre âge. Non, ça a été un apprentissage, et je dirais que jusqu'à mes 25 ans, le début de l'âge adulte, c'était pas facile de prendre la parole. Dans le cadre scolaire, c'était pas facile, même si j'aimais l'école, l'exercice oral était toujours impressionnant. Et j'ai appris, justement, avec mes études de journalisme, avec mes premiers contrats comme journaliste, à prendre la parole, et particulièrement en radio où la voix est centrale. Et où pour devenir à l'aise, eh ben, il faut s'entraîner, il faut pratiquer tous les jours. Et aujourd'hui, là, je peux vous parler sans que ce soit trop difficile pour moi. Donc ça a mis du temps.
Et que faites-vous pour prendre soin de votre voix ?
Pour prendre soin de ma voix ? Je fais... C'est pas quelque chose auquel je pense quotidiennement, de prendre soin de ma voix. Mais je sais que le tabac est néfaste pour la voix et qu'il faudrait, en tout cas pour la préserver, ne pas trop fumer. Et puis par contre, dès que je sens des petits symptômes de toux arriver durant l'hiver, comme je sais que ma voix c'est mon outil quotidien à la radio pour travailler, pour éviter d'être perturbée dans mon travail, et ben je me fais souvent des eaux chaudes avec du citron et du miel et du thym. Le thym c'est très bon pour la voix. Donc ça c'est vraiment pour le côté très pratique. Pour le côté technique, pour prendre soin de ma voix.
Est-ce que des auditeurs ou des auditrices vous ont déjà dit que vous aviez une belle voix ou une agréable voix ?
Alors, il se trouve, au-delà du travail, que je chante depuis longtemps, donc ça aussi était, ça m'a, la voix a toujours été centrale dans ma vie, même quand j'étais enfant. Donc déjà, dans le cadre du chant, j'ai eu des retours positifs sur ma voix, donc forcément, ça donne confiance. Et dans le cadre de la radio, oui, il y a des retours sur la voix. Alors plutôt que jolie, qu'elle est agréable à entendre pour accompagner l'auditeur. Mais les retours qu'on me fait, c'est plutôt sur ce que je dis que sur ma voix en elle-même. C'est plutôt le contenu qui intéresse les auditeurs, ce qui est plutôt rassurant.
Est-ce que le fait d'avoir chanté dans des groupes de musique vous a aidé à placer votre voix dans pour la radio ?
Oui, même si c'est pas le même exercice du tout. Dans le cadre de la radio, je suis plutôt dans un registre informatif. Alors que dans le cadre de la musique et du chant, c'est plus créatif et artistique et esthétique. Donc la visée n'est pas du tout la même, mais par contre ça m'a entraînée à chanter devant des publics, selon les concerts, de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes. Donc forcément on apprend à avoir le regard d'un groupe sur soi, sur sa voix. Donc oui, le chant m'a beaucoup aidée.
Quelle voix connue ou pas vous émeuvent ?
Des voix qui m'émeuvent. Alors j'ai besoin d'un petit temps de réflexion, j'ai le droit. Des voix qui m'émeuvent. Alors peut-être une voix chantée, parce qu'il y a plus d'émotions dans le registre de la chanson que dans un discours qui serait parlé. J'ai souvenir de concerts où dès la première note de la chanteuse, en l'occurrence, ça me donnait un frisson et vraiment une émotion, les larmes qui montent aux yeux, sachant qu'en plus c'était pas en français, donc c'était pas ce qui était raconté, mais vraiment le timbre qui me procurait une émotion. Et donc je dirais la voix d'Indizara, qui est une chanteuse originaire du Maghreb, mais qui chante aussi en français, et dont la voix m'émeut beaucoup. Until you make me dance, how sweet it can be, if you make me dance. Ça, c'est pour les voix chantées. Et puis, une voix parlée. Là, je pense à la voix de mon grand-père, parce que pour le coup, je l'ai enregistrée dans le cadre d'un documentaire à son sujet. Et c'est mon grand-père, il est petit parleur, il ne parle pas beaucoup. Surtout quand il y a un micro, il est très impressionné. Et donc, j'ai pu passer beaucoup de temps avec lui au moment du montage en réécoutant ce qu'il me racontait sur sa vie. Et il a donc une voix qui est un peu altérée par l'âge. Un peu hésitante et qui, moi, m'émeut beaucoup, je l'entends.
Quelle voix connue ou pas vous agace ?
Ah, une voix qui m'agace. Alors, je pense que c'est plus souvent la personne que la voix en elle-même qui m'agace ou qui me contrarie. Pareil, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Une voix qui m'agace. Sur certains journalistes, parce que, du coup, étant journaliste, j'ai un regard critique sur le travail de mes confrères et de mes consoeurs. C'est plutôt sur des façons de travailler ou de la façon dont les questions sont posées ou le discours qui m'agace, mais vraiment une voix. Peut-être les voix qui sont formatées, justement. Quand on devient journaliste, on a fait des études pour devenir journaliste. Et quand on passe par des écoles, on nous apprend à acquérir un ton qui n'est pas du tout un ton naturel et que vous entendez quand vous mettez le flash info sur des radios nationales. Et ce ton-là peut m'agacer. Là, je pense à ça. Après, je vais sans doute regretter ma réponse et me dire « Ah mais si, il y a une voix qui m'agace ou qui me contrarie. » Non, là, comme ça me vient pas. J'ai que ça comme réponse.
Ok. Pensez-vous que la voix a des pouvoirs ? Si oui, lesquels ?
Ah ben, je pense que la voix a le pouvoir de convaincre, a le pouvoir de séduire. On peut faire beaucoup de choses avec sa voix. Mais c'est pas facile et c'est pas à la portée de tous et de toutes. C'est un apprentissage. Donc je pense que en société, la voix, elle est centrale. Et surtout ce qu'on dit, la voix, c'est un outil. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, quelle que soit sa voix de départ, qu'elle soit plutôt basse, haute, qu'on ait un accent ou pas. Mais c'est plutôt ce qu'on dit avec cette voix qui peut nous aider dans notre quotidien, qui peut servir notre pensée, qui peut permettre de sociabiliser. Pour moi, c'est assez central dans notre relation avec les autres.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt.
Merci à Madame Loire pour la pertinence de ses propos et pour le temps qu'elle nous a accordé.
Maintenant, nous allons écouter l'interview de la journaliste, chroniqueuse et militante féministe Marine Combe.
Une interview réalisée par Isis et Roman.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, donc je m'appelle Marine Combe, je suis journaliste spécialisée en presse écrite et spécialisée dans les questions de genre et de féminisme.
Avez-vous déjà suivi une formation en lien avec la prise de parole ?
Eh bien non, figurez-vous, c'est la première fois qu'on me pose la question, c'est une bonne question, non, j'ai jamais suivi de formation à ce sujet-là.
Que représente la voix pour vous ?
Qu'est-ce que représente la voix pour moi ? C'est une bonne question aussi. Je me suis pas souvent posé cette question, mais pourtant c'est un élément hyper important, enfin justement dans ma vie de journaliste, pouvoir transmettre la voix des femmes, c'est un point qui est hyper hyper important. Donc pour moi, c'est la voix, elle représente une sorte de pouvoir, elle a le pouvoir d'agir, le pouvoir de se rendre sujet, le pouvoir de pouvoir dire qui on est, ce qu'on veut, quelle liberté on veut, quel choix on a, etc. Pour moi, c'est un pouvoir.
Est-ce qu'entre le début de votre carrière et maintenant, vous trouvez que votre voix, votre façon de parler, de prendre la parole devant un public a changé ?
Complètement. Complètement, parce que effectivement, au début, quand on commence, en général, on se sent pas forcément très légitime, pas très expérimenté. On a l'impression un petit peu de pas forcément avoir sa place à l'endroit où on est. Du coup, je pense que la voix, elle change beaucoup aussi en fonction de la légitimité qu'on se donne, qu'on s'octroie. Et du coup, oui, ça a complètement changé depuis le début de ma carrière. Surtout, enfin, au début, j'étais vraiment concentrée sur la presse écrite. Aujourd'hui, j'anime aussi des conférences et des tables rondes. Ça permet aussi d'apprendre à poser sa voix, d'apprendre à parler plus fort et de se faire entendre.
Sur quel support médiatique êtes-vous la plus à l'aise ? En presse écrite ou à la radio ?
Je pense que je suis beaucoup plus à l'aise en presse écrite qu'en radio, parce qu'en presse écrite, justement, on est face un petit peu à son ordinateur. Personne n'entend notre voix. Si on se trompe, on efface, personne ne voit. C'est un peu un dialogue avec nous-mêmes, alors qu'en radio, on a conscience quand même que des gens peuvent nous écouter et que des gens nous écoutent au final.
Ok. Quand vous êtes devant le micro, quelle émotion ressentez-vous ?
Quelle émotion je ressens ? Je pense qu'il y a du stress. Il y a le stress de bafouiller, il y a le stress de pas y arriver, de pas justement parler correctement dans le micro. Et en même temps, c'est assez exaltant. C'est un peu un challenge, c'est une manière de se dépasser aussi à chaque fois qu'on prend le micro. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, à chaque fois que je prends le micro, c'est un peu un défi relevé. Donc voilà, je pense qu'il y a de la joie et en même temps du stress.
Quelle voix, connue ou pas, vous émeut ?
Quelle voix m'émeut ? Alors comme ça, je saurais pas vous dire très précisément, mais il y a plein de... Il y a plein de voix, j'imagine, des chanteurs, des chanteuses. Il y a plein de personnes qui peuvent nous émouvoir. Du coup, en y réfléchissant, je pense notamment à Mansfield Tia, qui est un duo du coup de femmes qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui était justement très très émouvant. Rebecca Warrior, elle a cette manière de s'exprimer, de chanter et de parler. Ça amène beaucoup d'émotions.
Dans un lagon abandonné.
Et après, je dirais que en manifestation, on peut être ému par beaucoup de voix, par les chants qui sont scandés collectivement. Du coup, c'est des voix qui s'unissent ensemble, par les discours qui sont prononcés. Du coup, enfin voilà, peut y avoir de la colère dans la voix et ça nous emporte, ça nous émeut.
Au contraire, quelle voix vous agace, qu'elle soit connue ou pas, toujours ?
Les voix qui m'agacent, après, c'est pas forcément des voix qui m'agacent, c'est des discours plutôt qui m'agacent, plus que des voix. Après, je saurais pas forcément les décrire, il y a des voix, je pense, qui m'agacent. c'est sûr, hein, comme il y a des physiques, des fois on contrôle pas, on n'aime pas, bah, les voix c'est un petit peu pareil. J'ai pas d'exemple particulier aussi, j'en ai un, mais du coup ça m'embête parce que c'est une femme et qu'elle est féministe. Tu pourras couper, c'est Maya Mazorette. Ouais. Sa voix m'énerve. Je l'ai entendue hier justement dans la voiture avec sa question qui fâche, etc. Et en fait, moi, sa voix effectivement me fâche.
À quel point la parole est-elle importante pour vous ?
La parole, c'est hyper important. Je pense que c'est une place quasi centrale dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. C'est hyper important d'avoir la parole, de pouvoir exprimer toutes les émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de la frustration. Je pense que tout ne passe pas forcément par la parole. On peut exprimer ses émotions par d'autres biais, mais la parole, elle est essentielle. Enfin, c'est la base pour moi de la relation humaine. Donc elle est primordiale.
Et vous nous aviez dit que au début la voix représentait un pouvoir. C'est quel pouvoir en particulier que ça représenterait ?
Bah c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir justement de transformer un peu ce qu'on ressent en moteur, en concret quoi en fait. C'est comment exprimer ça ? Vous voyez, des fois on trouve pas les mots justement pour pour exprimer ce qu'on pense, c'est vraiment pouvoir dire ce qu'on ressent, pouvoir dire quand on n'est pas d'accord, pouvoir dire aussi quand on est d'accord, pouvoir dire quand on est en colère, quand les choses nous énervent, quand les choses, enfin on a l'impression de pas les maîtriser, de pas être entendu. C'est une manière en fait de reprendre le pouvoir sur nos vies et sur notre capacité à agir.
Et pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer ?
Est-ce que j'ai un message à faire passer ? Mais c'est chouette, justement, de vous voir prendre le micro. Donc, osez. C'est un peu ça, mon message. C'est un peu oser prendre la parole et le micro.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Merci à Marine Combe pour cette interview. Nous proposons à présent l'interview de Suzanne Joly.
Elle est formatrice à la vie affective, à la vie sexuelle et à l'égalité filles-garçons et cofondatrice du festival Aux Parleuses.
Au micro de Mariam et Félix.
Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Bien sûr, je m'appelle Suzanne Joly, j'ai 32 ans, j'habite à Rennes et dans la vie j'ai plusieurs casquettes professionnelles. Je suis notamment formatrice à l'égalité filles-garçons et l'éducation à la sexualité et j'ai aussi un podcast d'histoire pour enfants.
Ok.
Que faites-vous dans votre métier ?
Eh ben, j'interviens auprès des enfants, des ados, des parents ou alors des professionnels de l'éducation. Et mon but, c'est de sensibiliser aux questions d'égalité hommes-femmes et aussi aux questions d'éducation à la sexualité. Donc voilà, ça peut être des ateliers pour les enfants ou les ados. Et avec les parents, je vais plutôt discuter de l'éducation, etc.
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine ?
Ça va faire 3 ans bientôt.
Avez-vous rencontré des difficultés au début de votre carrière ?
Pour moi, la principale difficulté, c'était de me faire connaître sur le territoire, parce qu'avant, je travaillais plutôt dans les accueils de loisirs et tout ça. Donc, c'était nouveau pour moi de lancer ma propre entreprise, on va dire. Donc, la difficulté, c'est de se faire connaître et de trouver les premiers établissements qui veulent bien travailler avec nous et tout ça.
En quoi la voix est-elle importante dans votre métier ?
Forcément, en tant que formatrice, je suis amenée à prendre la parole devant du public, donc que ce soit devant des classes, que ce soit en conférence, devant des parents, etc., etc., ou même à la radio, parfois à Canal B et tout ça. Donc la voix a forcément son importance parce que ça permet de canaliser le public, de capter l'attention, et puis aussi de faire passer des messages, forcément.
Quand vous intervenez en classe, vous arrive-t-il parfois de devoir oser le ton ?
Oui, forcément. Vous savez bien comment ça se passe dans les collèges et tout ça. Il y a des classes qui sont plus ou moins faciles. Il y a des dynamiques de groupe qui sont différentes d'une classe à l'autre. Donc parfois, je dois recanaliser le groupe et tout ça. Mais après, dans mes ateliers, j'utilise beaucoup le jeu. Donc même si on parle de sujets qui sont importants comme l'égalité filles-garçons et tout ça, j'essaye d'amener toujours ça de manière ludique et je trouve aussi que ça permet de canaliser le groupe et de rendre la chose un peu sympa quoi.
Comment centrez-vous, attirez-vous l'attention des élèves ?
Justement par le jeu du coup, donc ça peut être des moments où on va se déplacer dans l'espace pour répondre à des questions, etc. Ça peut être des fois où on va se mettre en petit groupe et puis parfois en grand groupe pour essayer aussi de pas toujours devoir prendre la parole devant tout le monde parce que parfois ça peut être impressionnant. Donc parfois je fais travailler les élèves en petit groupe et parfois en grand groupe, parfois on va aller mettre des gommettes sur des feuilles, etc. Enfin, j'essaye d'amener des choses à manipuler aussi, notamment dans les séances d'éducation à la sexualité où j'ai beaucoup de matériel à manipuler. Et ça permet aussi aux élèves d'aider à se concentrer et rester intéressés par le sujet.
Que ressentez-vous lorsque vous parlez devant les autres ou au micro ?
Je pense qu'au début, c'était très impressionnant, forcément. Je pense, comme vous aujourd'hui qui expérimentez, le micro, il peut être un peu intimidant. Mais après, c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Et puis, plus ça va et plus on s'entraîne. Et du coup, plus ça va et mieux ça se passe.
Est-ce que vous avez toujours pris la parole facilement ?
Non, je pense pas. En plus, je trouve qu'en France, on nous apprend pas beaucoup à prendre la parole en public, en classe et tout ça. Je me souviens des exposés où c'était un peu catastrophique au collège et au lycée parce que je trouvais ça dur. Mais voilà, en devenant adulte et puis en s'exprimant sur des sujets qu'on maîtrise, c'est plus facile aussi. Moi, je suis passionnée par mon sujet, du coup, donc c'est plus facile pour moi de m'exprimer sur ce sujet-là que sur d'autres, par exemple.
Pensez-vous à votre voix souvent ? Est-ce que cela vous préoccupe ?
Je sais que j'aime pas écouter ma voix et c'est pour ça que je mets pas le casque d'ailleurs. Pourtant, je fais du podcast et voilà, je devrais m'y habituer. Mais c'est vrai que quand je passe à la radio ou quoi, je me réécoute rarement derrière parce que c'est pas très agréable, je trouve. Mais voilà, encore une question d'habitude.
Quel conseil donneriez-vous pour oser prendre la parole ?
Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner. Ça peut être chez soi, devant le miroir, etc. Faut répéter son texte de sorte à ce que ça devienne fluide. Sans que ce soit lu par cœur, récité, etc. Mais qu'il y ait un peu plus d'aisance à l'oral. Je pense qu'on peut effectivement s'entraîner chez soi. Et puis peut-être commencer par des sujets qui nous intéressent pour progressivement oser l'ouvrir sur tous les sujets. Et puis... peut-être s'entraîner devant des petits groupes aussi pour commencer.
Quelle voix vous émeuvent ?
Quelle voix m'émeuvent ? Je dirais des voix de chanteurs, de chanteuses. Forcément, la musique, ça fait passer des émotions. J'ai pas de nom en tête, mais je dirais que c'est ça. C'est l'émotion que peut transmettre une voix, que ce soit dans la musique d'ailleurs ou dans des discours. En général, c'est porteur d'émotions et c'est ça qui fait que ça nous atteint.
Quelle voix, connue ou pas, vous agace ?
Je pense que c'est les accents que prennent les vendeurs et les vendeuses dans les magasins, que je trouve un peu forcés et pas naturels, et ça m'agace.
Pensez-vous que la voix a des pouvoirs?
Si oui, lesquels?
Oui, bien sûr. Je pense que le pouvoir de la voix, encore une fois, c'est de transmettre une émotion, bah voilà, de dire le fond de sa pensée, de transmettre un discours qui nous est cher, etc. Et c'est hyper important de s'exprimer à l'oral. Bien sûr, on pense à toutes les personnes qui n'ont pas cette capacité, mais qui du coup peuvent s'exprimer autrement. Mais la voix me semble importante pour ça, pour transmettre l'émotion et des messages forts, sans que ce soit du blabla à tout va.
Merci, nous merci avons fini okay. Nos questions.
Au revoir.
Merci, merci, au revoir.
Canal B, Radio Curieuse.
Merci à Suzanne Joly. Et enfin, pour conclure ces interviews, nous vous proposons de prêter une oreille attentive aux propos d'Emiline Belot.
Coach en prise de parole en public au sein de la formation Les Nouvelles Oratrices.
Une interview menée par Mélissa Icom.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Nous nous retrouvons sur Canal B avec Emeline. Alors, bonjour Emeline.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous vous présenter?
Oui, je peux. Alors, je m'appelle Emeline, j'ai 32 ans, je suis aujourd'hui formatrice pour les nouvelles oratrices. Et auparavant, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le développement de produits, accessoires de mode, lifestyle. Donc, je voyageais en Asie pour développer ces produits-là. J'ai souhaité me reconvertir par conviction écologique et aussi parce que j'aimais accompagner les jeunes et former mes juniors. Et c'était important pour moi qu'elles sachent se défendre, notamment en entreprise. Et la prise de parole est très importante pour ça. Ça me permettait aussi de faire le lien avec ma passion pour le théâtre.
Très okay. Intéressant.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier?
Le métier de formatrice?
Oui.
Ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'était l'idée d'accompagner les personnes pour les aider à s'exprimer. S'exprimer par leur prise de parole, pour exprimer leur point de vue. Parce que finalement, c'est avec ce que l'on va dire, avec notre voix, qu'on va faire entendre nos idées. Et c'est ce que j'ai découvert dans le milieu professionnel et aussi grâce au théâtre.
Ok.
C'est très intéressant. Du coup, cela fait combien de temps que vous faites ce métier de formatrice?
C'est très récent pour moi, je le fais depuis le mois de mai. C'est une reconversion professionnelle, donc ça fait à peine quelques mois maintenant. Okay.
Combien de personnes avez-vous coaché?
Combien de personnes j'ai pu former? Alors depuis le mois de mai, c'est une très bonne question. Je dirais environ 40 personnes.
Et est-ce plus des hommes ou des femmes que vous avez coaché du coup?
Alors j'ai eu qu'un homme jusqu'à présent, sinon ce n'était que des femmes.
Okay.
Que des femmes parce qu'on a pressenti qu'il y avait un peu plus ce besoin-là chez les femmes que chez les hommes. On avait peut-être plus de difficultés à exprimer nos points de vue.
Okay. Avez-vous déjà eu votre voix cassée lors d'une présentation?
La semaine dernière j'avais un petit peu mal à la gorge et c'était pas facile en effet. Mais c'est quelque chose que l'on travaille en projetant sa voix.
Que pensez-vous de l'égalité homme-femme dans la prise de parole?
Qu'est-ce que je pense de l'égalité? C'est une bonne question. L'égalité homme-femme dans la prise de parole n'est pas vraiment présente finalement. On a en tant que femme moins l'habitude de s'exprimer, avec moins d'aisance, on nous donne peut-être moins la parole, ce qui fait qu'en grandissant, on prend l'habitude de moins s'exprimer et de ne pas être égal et avec la même aisance dans notre prise de parole. On peut aussi parfois ne pas nous la laisser, ce qui va agir un peu sur notre confiance en nous et moins nous laisser nous exprimer comme on le veut.
Que faites-vous lorsque quelqu'un vous coupe la parole?
Qu'est-ce que je fais quand on me coupe la parole? Ben je lui dis, excuse-moi, tu vas me couper la parole, je peux m'exprimer jusqu'au bout? Tu me laisses développer mon idée? Merci.
Quelles sont vos émotions lors de votre première expression devant un public?
La première fois que j'ai pris la parole devant un public, en séminaire, devant à peu près 400 personnes, je me suis mise à pleurer. Trop de trac, ce qui m'a forcée à travailler ça et à m'améliorer. Comme quoi, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend.
Bah, okay. Avez-vous eu déjà du stress lorsque vous avez parlé, quand vous parlez en fait?
Oui, j'ai déjà eu beaucoup de stress en parlant. J'ai du trac en ce moment même, si tu veux savoir. C'est très impressionnant de répondre dans ces questions dans un micro. Prendre la parole, ça fait du trac, oui, parfois, c'est normal. Il y a tous les regards sur nous. Et c'est pas grave, le track c'est chouette, ça te permet aussi de te donner à fond. Et regarde, c'est plutôt sympa là, je trouve aussi.
Avez-vous déjà eu des désaccords lors d'une présentation au sujet de l'égalité homme-femme ?
Oui, j'ai déjà eu des désaccords. Souvent, quand on parle de l'égalité homme-femme, on va dire bah, « c'est bon maintenant, on est tous égaux, non ? Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Et là, il faut rappeler les chiffres, il faut rappeler que non, l'égalité n'existe pas encore et que c'est quelque chose qui doit continuer à être travaillé, sur lequel on doit continuer à protester et à exprimer que nous aussi, on veut les mêmes choses, les mêmes droits, la même présence, la même visibilité.
Étiez-vous déjà pressée pour aller aux toilettes en pleine présentation ?
Oui, ça m'arrive. À chaque fois que je vais prendre la parole, si tu veux savoir, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et parce que bah, justement, j'ai un petit peu de trac et j'y suis allée juste avant de venir te parler là.
Sinon, savez-vous ce qu'est la glottophobie ?
La glottophobie, oui, c'est quand on rougit, c'est ça ?
Non.
Non ?
C'est une discrimination au sujet de l'accent.
Ah, mais c'est pas... tu m'as pas encore entendu dire rose, mais je viens du sud. Donc écoute, pour moi, c'est pas grave, je continue de dire mes accents comme je l'ai dit. On s'en fout, exprimons-nous comme on est.
Vous aimez Jules, du coup?
Pardon? Ah oui, oui, il vient de ma ville.
C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé.
En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés.
Hasta luego, fais un, hasta luego.
Bah, merci pour cette interview.
Oui, merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
À une prochaine fois, peut-être.
Oui, avec plaisir.
Un grand merci à toutes nos interlocutrices. Vous êtes toujours dans l'émission des 4e du Collège Saint-Joséphine Baqueta de Rennes. On poursuit tout de suite avec notre débat.
Pause musicale dans l'émission des 4e du Collège Saint-Joséphine Baqueta. On écoute Randy, Mister et Boule de Gomme sur Canal B.
Y'a un peu de magie dans chacun des mots. Je prononce le meilleur ça c'est mes deux pronoms. T'es pas clean, drive comme Mr. Bean. J'arrive comme clean, t'es Alain Delon dans le film. Le movie poursuivi par Sammy et Scooby. Parce que je suis mystère et la boule de gomme. Ces rappeurs je les vois comme des bouts de gnome. Donc dès que t'es bouche t'es comme leur tête. Dès que j'arrive j'ambiance leur fait. Yeah, j'illumine la pièce, mon sourire Colgate vaut trois fois plus que ton joli costume, trois pièces. Tu veux me bouquer en concert chaque caisse. Le sens de ma vie est dans les yeux du public. J'existe à travers les émotions que je suscite. Rendu il faut celui-ci, yeah. Les années filent, les rappeurs passent. Okay. Dire que je suis le best, comme dire que le ciel est bleu et que les sapeurs savent. Je suis authentique, elle adore ça. Je tape mes rings, peut-être qu'en 2050, je taperai le dorsal. Prédiction, même dans 3D, ces lumières sont encore sales. Yeah, ou King comme Outkast. Yo, c'est toi qui choisis. Je tape le capital de la bourgeoisie pour avoir le capital de la bourgeoisie. Mon équipe est solide et fluide. C'est une escouade newtonienne. C'est moi, mon bulle, on fait ce qui t'enquête. Elle vaut plus que romper sous sienne. Je le fais pour moi, je le fais pour vous. Je le fais pour ma future vie. Je le fais pour que tu puisses le faire aussi. Qu'on puisse tous grind au corps. J'ai à devenir un homme sur qui tout le monde peut compter. Celui qui reste debout. Je le fais car quand tu traverseras le tunnel, je t'accueillerai au bout. Je le fais parce que si je le fais pas, qui pourra me remplacer? Je le fais pour être meilleur que le Randy de l'an passé. C'est 20% le travail et 80% la chance. Mais je vais tellement provoquer cette dernière. Je vais faire mentir la science. Yeah, j'suis dans le pura comme Ecoli. Je fais pour le sport, pas pour les colis. J'suis tout en haut, j'suis haïssant là où il est codé. Yeah, j'suis dans la matrice décodée. Yeah, j'suis dans le pura comme Ecoli. Je fais pour le sport, pas pour les colis. J'suis tout en haut, j'suis haïssant là où il est codé. Jeune néo, j'suis dans la matrice décodée.
C'était Randy avec son titre Mystère et Boule de Gomme sur Canal B. On retrouve tout de suite les élèves de 4e du collège Sainte-Joséphine Baqueta depuis l'Edulab Pasteur.
Il est temps à présent de passer à notre débat. Il a pour thème la prise de parole en classe et notamment celle des filles. Et sera mené par nos camarades de classe.
Merci les garçons d'avoir présenté le débat. Nous nous sommes réunis plusieurs fois pour présenter le débat sur la prise de parole de l'homme et de la femme.
On a parlé de la voix, la prise de parole, notamment pour les femmes. Et on s'est réunis un peu pour prendre le temps de réfléchir, de savoir et de bien savoir si en fait les femmes sont comprises à ça ou pas. Et on a trouvé que non, en fait, c'était non. Et on a cherché une solution. La solution, enfin, il y en avait plusieurs, mais je vais en dire une qui revenait. On a trouvé que si on appelait un assistant adulte spécialisé à la prise de voix des femmes et qu'on prenait une victime de ça, parce qu'on en a trouvé au moins trois, et on a trouvé que si on prenait une victime et quelques élèves témoins de ça, ça pouvait arrêter, en fait. Les filles dans la classe n'arrivent pas à prendre la parole car ils sont intimidés. Les garçons intimident la fille, donc elle ne veut pas prendre la parole. Et c'est un trauma qui reste de toute ta vie si on ne règle pas maintenant, si on ne réfléchit pas. Et donc, on a décidé de y remédier à un... on a décidé d'appeler un spécialiste et prendre la victime et prendre des élèves qui ont déjà subi ça et en parler dans toutes les classes de la 6e jusqu'à la 3e pour y remédier.
On a aussi parlé de certaines filles dans notre classe qui sont victimes d'harcèlement. Comme on parle de la prise de parole en classe, quand les filles veulent poser une question ou veulent répondre à une question et qu'à ce moment-là, elles se trompent, souvent, certains garçons dans la classe, ils se moquent ou alors ils rigolent, non, t'as pas raison, tout ça. Du coup, on aimerait bien que ça change, que ça s'arrête et que... les garçons arrêtent de se moquer de certaines filles dans la classe.
Là, vous aviez quatre garçons avec vous pour préparer le débat. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ces garçons? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous avez parlé de votre gêne, votre malaise?
Ils ont préféré ne pas parler. Ils ont préféré... ils n'ont pas réagi. Ils écoutaient, ils étaient ennuyés. Donc, on a décidé de réfléchir entre filles.
Quand on a parlé de l'harcèlement et tout, les garçons ils se sont dit que c'est vrai, qu'on a raison, parce que y a des filles, elles se font intimider et elles ont trop peur, parce que elles se défendent pas, elles ont peur de se défendre, parce que si elles se défendent, les garçons, ils vont plus l'insulter. Et du coup, les garçons se sont dit, oui, tout, on est d'accord avec eux, parce que c'est de l'harcèlement de faire des trucs comme ça.
Je tenais à dire un truc, c'est que pendant le débat, lorsque la prof, elle demandait aux garçons de la classe qui étaient avec nous, ils n'étaient pas beaucoup, mais ils n'étaient pas forcément concernés, mais ils n'ont pas assumé, ils n'ont pas osé dire oui, c'est vrai que les femmes, elles sont. Que les filles de la classe, elles sont victimes de ce harcèlement.
Ils mettaient leur tête dans les bras et tout, et quand on leur posait une question, ils commençaient à bégayer et tout.
Est-ce que, qu'on soit fille ou garçon, c'est simple de prendre la parole en classe?
Moi, je pense que pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui n'ont pas de mal à prendre la parole en classe et certaines personnes qui ont du mal à prendre la parole dans la classe alors qu'elles peuvent dire des trucs intéressants et des trucs bien, mais que ces personnes-là sont en fait intimidées par certaines personnes qu'on ne va pas dire et qu'en fait ces personnes-là se renferment sur leur timidité et du coup elles ne peuvent pas dire ces choses intéressantes qu'elles ont envie de sortir de leur bouche.
Il y a des filles de la classe, elles ne peuvent pas s'exprimer à l'oral parce qu'elles ont peur des moqueries, que les gens rigolent d'elles et tout. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont plus confiance en soi et du coup, qui parlent plus. Et voilà.
Et les filles, il y en a plusieurs filles dans la classe et dans les deux classes qui sont timides, qui n'osent pas parler. Donc... il faudrait aussi que tout le monde soit à l'écoute de ces filles-là pour les aider à ce qu'elles puissent parler sans que quand elles veulent prendre la parole, que tout le monde parle en même temps. Parce que certaines filles qui ont... certaines filles qui ont un peu un manque de confiance en elles, elles ont un peu plus du mal à parler en classe. Du coup, et il faudrait les aider et que tout le monde soit à l'écoute.
Ça concerne que les filles. Il n'y a que les filles qui... Il n'y a pas des garçons qui peuvent être timides.
Je trouve pas qu'il y a trop de garçons qui sont timides, genre parce que
ils ont confiance en soi, mais ils ont... Je sais pas comment expliquer, genre...
En fait, je trouve que les garçons, ils ont cette facilité à parler que certaines personnes n'ont pas. Mais, comment dire... Bah, les filles, elles sont pas toujours timides, mais c'est peut-être parce que, par rapport aux remarques des personnes de la classe, si, par exemple, on leur remet tout le temps en question que, ah, quand tu poses telle question, t'as tout le temps faux, ah, quand tu demandes telle question, la question, elle est bête, bah, en fait, je peux comprendre que ça décourage et que ça donne pas cette envie de participer en classe.
Moi, je trouve que bah, les garçons, bah, ils ont, comme elle l'a dit, ils ont beaucoup plus de facilité, bah, à prendre la parole. Comme mais en fait depuis tout à l'heure on dit les garçons quand les filles timides elles prennent la parole depuis tout à l'heure on dit les garçons ils leur font des remarques mais il y a pas que les garçons il y a aussi des filles qui font des remarques. On focalise trop sur les garçons alors que les filles aussi je trouve qu'il y a aussi des filles qui font beaucoup de remarques.
Ça c'est intéressant, c'est vraiment la prise de parole en général. Et qu'on peut avoir au collège la moquerie facile, se moquer facilement de ceux qui se trompent, voilà, c'est ça.
Oui, ouais. C'est vrai que tout le monde a raison, toutes les filles ont raison, mais en fait, il faut vraiment que les filles s'en fichent en fait, de ce que les garçons disent, on ne vit pas pour eux. En fait. Et en fait, bah, faut écouter ce qu'on a dans le cœur, les garçons ils se moquent de nous, on s'en fiche en fait. C'est pas notre vie, ils se ridiculisent pour rien. Et ensuite, et bah, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, surtout les filles qui sont timides. Et il faut oser s'affirmer et parler. Voilà. Bah, moi, je trouve aussi qu'il y a certaines filles qui sont un peu trop sur la défensive. Par exemple, bah, je sais qu'il y a certaines filles, par exemple, qui sont très susceptibles. Donc, en fait, qu'on leur dise un truc et tout, qu'on leur fasse une remarque, mais pas forcément une remarque méchante, bah ces filles-là, elles vont s'énerver, mal le prendre et tirer la gueule, alors que enfin, c'est un peu lourd comme émotion en classe.
Et surtout que il y a certains garçons qui ont des manières d'être bah, propres à chacun. Chacun a sa manière d'être, sa manière de parler et sa manière d'être physiquement. Et souvent, il peut y avoir soit des filles, soit des garçons qui sont discriminés, enfin qui ont des propos méchants contre les autres.
Du coup, pour en finir au fait que tout à l'heure, c'est pas forcément que les filles qui sont martyrisées ou victimisées, bah, et du coup, bah, pour aider, venir en aide à ces personnes, il faudrait que, bah, ils aient pas honte de parler au professeur parce que le professeur, il est là, entre guillemets, pour aider les élèves et qu'il se doit d'écouter les élèves attentivement par rapport à leurs difficultés et donc de leur apporter une aide extérieure.
Là, tu veux dire que quel que soit, qu'on soit une fille ou un garçon, parfois on peut avoir peur de prendre la parole parce qu'on va être moqué et ça tient pas qu'au genre.
Oui, exactement.
Moi, en fait, quand il y a des filles, quand elles se font intimider, et bah, elles vont pas sur la défensive, elles se défendent pas. Mais le seul moyen qu'elles font pour se défendre, c'est d'aller prévenir un professeur. Mais la plupart des professeurs, ils arrangent pas grand-chose. Ils disent que bah, vous interrompez le cours, ça sert à rien de dire des choses comme ça parce que bah, ça va interrompre le cours et tout, même quand on dit ça à la vie scolaire, ils disent que c'est un peu des trucs de gamins et tout, genre ça va pas, genre c'est gamin et tout, on va pas régler des trucs comme ça, alors que les filles, bah, c'est grave ce genre de trucs, les filles peuvent perdre confiance en soi, et la confiance en soi c'est quelque chose de très grave, d'important aussi.
Aussi, je voulais dire, faut pas mettre toute la cause sur les garçons, si on a cette facilité à parler, bah, c'est pas notre faute, et voilà.
Elles ont dit, hein, les filles qui avaient des filles qui n'étaient pas tendres aussi. Et est-ce que, moi, ma question, parce qu'à chaque fois, enfin plusieurs fois, vous avez parlé de harcèlement. Est-ce que avoir des difficultés à prendre la parole en classe parce qu'on a peur des réflexions, ça s'apparente à du harcèlement?
Pas forcément du harcèlement, mais certaines filles, elles ont du mal à prendre la parole en classe parce que avant, elles ont été victimes de harcèlement, que ce soit dans la cour ou dans la classe, et à force que les garçons ou même les filles lui disent arrête de parler, ce que tu dis c'est faux, tout ça, à force bah, les filles elles perdent confiance en elles, et après à force bah, les garçons ils sont encore plus méchants et prennent la confiance. Moi, je reviens sur le fait de ce que Ali elle a dit. C'est pas que par rapport au harcèlement et par rapport aux garçons, parce que peut-être il y a certaines filles qui auparavant qui ont été trop qui ont été trop victimes, mais pas que d'harcèlement, mais d'autres choses. Ou alors c'est dans la nature de certaines personnes qui se sentent plus à l'aise avec leurs camarades, qui dans la cour peuvent sourire, parler fort, et dans la classe non, parce que elles se sentent pas à l'aise, mais c'est dans leur nature. Et ben en fait ces personnes-là, faut pas qu'on les qu'on remette la faute sur elles, parce que c'est leur nature, elles sont comme ça et on ne peut rien y faire.
Canal B 94.0.
Aussi, je voulais dire, faut changer d'argument. Faut pas tout le temps dire les filles seront en manque de confiance après. Voilà.
Nous, on a pris exemple sur les filles parce que nous, dans notre classe, il n'y a pas de garçon qui se fait intimider. Mais oui, il y a des garçons qui se font intimider, mais nous, personnellement, on n'a pas eu l'expérience de voir des garçons intimider. Moi, personnellement, j'ai pas vu de garçons se faire intimider, mais j'ai plutôt vu des filles. Donc moi, je parle des filles, je parle pas de garçons.
Non, fallait écouter.
Je suis pas d'accord avec toi, Ahmed, parce qu'on a parlé aussi des gars. On a dit que, eux aussi, ils peuvent se sentir mal à l'aise et tout. Et voilà, on n'a pas... Jade, là, tu veux juste défendre tes amis pour moi. Et voilà.
C'est complètement faux. Je ne vais pas défendre mes amis. C'est juste... on dirait on vous remettait toute la faute sur les garçons. Et voilà.
Je pense que ça va aussi dans les deux sens. Parce que c'est vrai que les garçons vont un peu intimider les filles. Mais elles le prennent un peu trop à cœur. Parce que... Voilà, on va vous dire non, c'est pas ça, et vous êtes tout de suite allé dire à vous vexer, ou je parle de certaines personnes, pas tous, hein. Mais au niveau des garçons, t'as pas tout le monde aussi qui va intimider les filles, certains garçons. Après, c'est pas forcément méchant, ça peut être aussi gentil, mais ça peut être aussi méchant, mais sans aller dans l'abus, mais ou rigolo, tout simplement.
Il y a Roman qui veut dire un truc, on l'écoute.
Alors moi je pense que c'est pas du tout une question de le prendre mal ou pas mal. Quand quelqu'un va te dire que ce que tu dis c'est faux, que c'est pas bien, qu'il faut arrêter, qu'on t'écoute pas, ça peut vraiment blesser, enfin ça peut atteindre à la confiance en soi, et ça permet, la confiance en soi je trouve ça permet beaucoup de parler. Et si t'as pas confiance en toi et que tu t'es pas à l'aise avec les autres, tu vas moins parler à l'oral et du coup moins être à l'aise et avoir moins une mauvaise note.
Moi je trouve que ce qu'elle a dit Romane c'est vrai, car dans cette classe depuis plusieurs années, de la 6e à la 4e, j'étais pas là en 6e, mais d'après ce que j'ai vu en 5e, c'est vrai que les garçons de cette classe, même certaines filles, mais plus généralement les gars, souvent ils pouvaient attaquer le physique. Et ce qui est arrivé plusieurs fois encore cette année, et ensuite ce qui fait, enfin moins, mais ce qui c'est encore arrivé, et que aussi c'est pas que les filles qui se font harceler ou quoi, puisqu'il y a une fille en particulier dans cette classe qui a déjà pas harcelé, mais on va dire peut avoir des propos pas très gentils à un garçon de cette classe. Aussi quand une femme, oui, mais quand une fille elle prend pas la parole, c'est peut-être parce que les autres ils ont pu avoir dit des choses, pas que t'es nul, des trucs comme ça, peut-être avoir été discriminée et avoir eu des préjugés, du coup ça fait que les filles elles ont plus envie de parler.
Moi je connais des gens, genre des gens qui en fait sont renfermés beaucoup sur eux à cause de leur voix, à cause des critiques de leur voix, parce qu'il y en a une qui avait notamment une voix très aiguë, et du coup elle se faisait, du coup c'est une copine à moi, personne ne la connaît, et du coup elle se faisait beaucoup critiquer sur sa voix, et du coup elle commençait de plus en plus à moins parler à l'oral, à moins participer, et c'est pour ça qu'elle s'est renfermée en elle-même, et j'essaye de la faire surmonter ça en gros.
Ange, tu voulais ajouter quelque chose? Tu peux partir,
En fait, Ali et Roman et tout, je suis complètement d'accord parce qu'elles ont dit, mais certaines fois, bah, y a des choses qu'on peut nous dire qui peuvent nous passer au-dessus de la tête parce que, en fait, on sait ce qu'on vaut, on sait de quoi on est capable et on sait de quoi on n'est pas capable. Mais je sais qu'après, que quand ça commence à déborder, je sais que ça peut être lourd, que ça peut être insurmontable, enfin que nous, on peut penser que c'est insurmontable, mais c'est possible, mais avec un peu d'effort.
Félix, tu veux répondre quelque chose à
dire ? Oui, vous avez dit que vous parliez de... Genre, ils pouvaient être moins forts à l'oral parce qu'on vous a discriminé ou harcelé, ou être moins forts. Je veux dire, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la longue. Faut oublier ou ignorer ces genres de choses. Voilà. Après, il ne faut pas dire que c'est de l'harcèlement. C'est pas de l'harcèlement, c'est de la discrimination. L'harcèlement, faut vraiment être... pour que ce soit de l'harcèlement, c'est plutôt de la discrimination, parce qu'on décrit les choses, on dit que ça, oui, un tel est comme ça, et un tel est comme ça, ou sa voix est moche, on critique dessus. Mais faut pas le prendre au sérieux. Après, je sais que ça peut être difficile, parce que, ça peut nous toucher, ou... voilà, t'as des gens qui peuvent se vexer un peu plus vite que certains, mais à abuser de dire que c'est de l'harcèlement, pas du tout, et dire que c'est forcément les garçons, parce que on dit que la plupart c'est les garçons qui font ça, je suis pas trop d'accord sur ça.
Et si c'est tous les jours que tu peux pas prendre la parole parce qu'il y a quelqu'un qui dans la classe t'en empêche en disant oh mais tais-toi, toi tu vas encore dire des âneries ou oui. Je le dis volontairement poliment ou t'as une voix comme ci comme ça. Mm-hmm. Est-ce que si c'est tous les jours, elles peuvent pas dire c'est du harcèlement selon toi?
Tous les jours à la longue ça doit être un peu chiant, c'est vrai. Mais du harcèlement, non. Désolée, non.
Ah, je laisse Ismaël parler et après Suzanne va prendre la parole.
De ce que Félix a dit, il a totalement raison. Dans la classe, il n'y a aucune personne qui se fait proprement harceler. Comme ça.
Je vais laisser quand même Suzanne vous répondre. C'est important.
Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a des sociologues qui se sont amusés, entre guillemets, à venir observer les interactions en classe et notamment les rapports filles-garçons au quotidien dans les classes. Et en fait, on constate que statistiquement, encore aujourd'hui en France, on donne plus la parole aux garçons que aux filles en classe. Donc c'est de l'ordre de 56% la parole des garçons et je sais pas faire le calcul, mais 44%, voilà, merci pour les filles. Donc on constate que statistiquement, à échelle nationale, il y a encore cet écart de différence de parole donnée aux filles et aux garçons en classe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on constate aussi que les professeurs vont pas mobiliser les élèves de la même manière. C'est-à-dire qu'on va davantage interroger des garçons pour remobiliser des savoirs scientifiques. Donc par exemple, qui peut me rappeler la formule mathématique de je sais pas quoi, etc. Et ben là, on va davantage interroger des garçons. Et quand il s'agit par contre de rappeler ce qui a été fait la dernière fois ou quel devoir on a demandé, etc., là, on va davantage interroger des filles. Ça, c'est pareil aussi, c'est des statistiques qui nous montrent qu'on ne va pas interroger les filles et les garçons de la même manière en classe. Et donc, on ne va pas leur donner la parole sur les mêmes aspects. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, pour revenir sur ces questions de harcèlement, c'est que le harcèlement, dans la définition légale, il suffit de deux fois. Donc, c'est-à-dire que deux moqueries, c'est déjà du harcèlement quand ça concerne la même personne. Et aujourd'hui, en France, la forme principale de harcèlement qui est la plus courante, en fait, c'est le harcèlement sur le physique. Donc, toutes les anecdotes, toutes les expériences que vous avez nommées depuis le début, elles nous montrent aussi ça. Donc, il ne faut pas penser que parce que c'est un peu tous les jours, ce n'est pas suffisant. Non, il suffit de deux fois. Et ça va très vite, le harcèlement, vous le savez, vous le vivez au quotidien. Donc, soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça, parce que vous êtes aussi les seuls à pouvoir prendre soin les uns des autres dans votre classe. Bien sûr qu'il y a l'équipe éducative, etc., mais vous êtes en permanence ensemble. Donc, voilà.
Bah, en fait, je suis d'accord avec Suzanne. Et au bout d'un moment, elle a parlé des profs, tout ça. Et j'ai aussi remarqué que les profs, par exemple, si on leur faisait part de ce que nous, on pensait, bah, c'est un peu comme si ça ne les intéressait pas trop et qu'ils n'étaient pas pour là, mais que pour nous apprendre. Mais moi, je trouve que tout ce qui est prof, CPE, vie scolaire, tout ça, bah, de notre vie scolaire, bah, ils s'en occupent. Pas tellement, enfin quand je dis scolaire, pas les études, mais notre vie à l'école, ils s'en occupent pas tellement parce que j'ai beaucoup eu affaire à des cinquièmes qui venaient se plaindre parce que le CPE ou la CPE ne s'est pas occupé de son cas, ne l'a pas aidé alors qu'il ou elle avait besoin de cette aide-là. Et je trouve que moi c'est dommage parce que en fait c'est les seules personnes sur qui on peut vraiment se confier à l'école et sur qui bah en fait on a besoin qu'ils soient là sur nous. En fait.
Mais est-ce que tu as écouté Suzanne jusqu'au bout parce que Suzanne à la fin elle a dit certes il y a les adultes mais il y a aussi la bienveillance. Entre les pères, c'est vous tous dans la classe.
Oui.
Et elle a dit que avant peut-être d'aller voir un adulte, c'est d'être juste d'éviter le harcèlement entre oui, entre vous.
Oui, c'est vrai. Mais déjà être bienveillant entre soi, c'est qu'en fait, il y a des moments où on est bienveillant entre soi. Mais après, le harcèlement, c'est, je sais pas, peut-être les personnes qui font ça, bah c'est surtout les personnes qui sont pas bien dans leur peau à eux-mêmes. Et bah, en fait, on ne peut pas changer les pensées d'une personne parce que la personne, quand une personne est sûre de ce qu'il veut faire ou ce qu'il doit faire, bah, il va rester jusqu'au bout et le faire, accomplir ce qu'il doit faire. Et aussi, se confier à l'adulte, bah, c'est un peu le premier truc qu'on a envie de faire.
En fait, là, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais comme a dit Suzanne, bah, en fait, au lieu de direct aller penser au prof, c'est mieux que ça s'arrête et pas parler au prof. Et parce que au lieu de dire que ouais, les profs ils font rien, autant pas faire d'harcèlement.
Le harcèlement, c'est pas forcément la loi. Ils abusent un peu de dire que c'est deux choses qui peuvent faire un harcèlement. Ils abusent un peu sur les choses. Donc ça veut dire que tous les gens qui sont dans un collège ont harcelé forcément une personne. Donc non, désolé.
Bah, le cadre légal, il est ce qu'il est. Il faut bien mettre un curseur quelque part. Et puis après, on sait qu'il y a des propos qui peuvent être plus ou moins violents. Donc dans ces deux fois, effectivement, il ne faut pas inclure les petits propos, mais quand même. Et ce que je voulais principalement dire par rapport à cette histoire de harcèlement et de la bienveillance entre vous, c'est que la méthode qui fonctionne le mieux actuellement pour tuer dans l'œuf des situations de harcèlement scolaire, c'est ce qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée. Et donc ça fonctionne quand on prend un petit groupe dans une classe et que dans ce petit groupe, on met une personne victime de harcèlement, des potentiels harceleurs, etc., plus des élèves lambda qui vont être amis de ces différentes personnes et on les fait juste se préoccuper les uns des autres au quotidien en disant, par exemple, il y a un prof qui va prendre les élèves de ce petit groupe à la fin de la classe en disant, tiens, t'as vu telle personne aujourd'hui, t'as trouvé qu'elle allait comment, etc., etc. C'est juste ça, en fait, de la préoccupation partagée, de la bienveillance entre vous. Et c'est ce qui actuellement fonctionne le mieux. Donc ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ça veut dire que foncièrement, vous êtes capable de prendre soin des uns des autres et d'arrêter ce genre de moquerie un peu gratuite, etc. Parce que vous êtes des bonnes personnes dans le fond.
Moi, je tenais à dire que si c'était deux fois qu'on se faisait harceler, à ce moment-là, c'est que tout le monde se fait harceler parce que moi, je me suis déjà. Moi, c'est plus que deux fois, même depuis cette année, qu'on me dit des trucs pas forcément gentils. Mais au bout de deux fois, si c'est du harcèlement, pour moi, je dirais que tout le monde dans la classe s'est fait harceler au moins. Du coup, pour moi, il faudrait juste que ça s'arrête.
Même une moquerie, ça peut rester toute une vie. Alors, si vous avez déjà subi des moqueries, si vous êtes en train de subir des moqueries, n'hésitez pas à en parler parce que c'est très important. Même si c'est pas facile, il faut vraiment en parler pour que tout ça s'arrête.
Si je devais conclure, je dirais que la solution, c'est de en parler et de ramener un assistant spécialisé dans ça et d'en parler à toutes les classes pour que ça puisse arrêter et que les filles et les femmes puissent être à l'aise et dire ce qu'elles veulent sans être dérangées.
Un grand merci à William, Alia, Ange, Jeanna, Kersia, Samia, Malak, Yisuki.
Vianne, Lucas, Ismaël, Ahmed et Kaina pour la richesse de ce débat.
Sachez que côté coulisses, l'ensemble de l'atelier a été documenté et pris en photo grâce aux tablettes prêtées par l'Edulab Pasteur. Et nous remercions Ali, Maya, Nupel, Mayuen, Marcel, Maxime et Isuke pour l'investissement et leurs belles photos.
C'est déjà la fin de notre émission sur la prise de parole et la voix dans le cadre du festival aux Paralyses.
On espère que cela vous a plu et que vous avez pu apprendre de nouvelles choses tout au long de ce programme.
Merci à notre professeur Madame Ilaoudi de nous avoir donné l'opportunité de nous mettre dans la peau de journalistes. Et merci à Madame Cormi de nous avoir accompagnés. Merci aussi au Festival aux Parleuses et à l'Edulab Pasteur d'avoir pensé à nous et de nous avoir accueillis. Merci à Morgane et Léonard de Canal B.
C'était les quatrièmes du collège Saint-Joséphine Bakita de Rennes et à la présentation, il y avait Ivan, Adrien, Owen, Zakaria, Youssouf et Salim.
Au revoir et à bientôt sur Canal B.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.